Impact. Une émission au cœur du développement durable. Impact. C'est tous les mercredis sur Alger 3.
h 05 secondes pour la petite précision. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Pour ce numéro, mercredi 11 février 2026, on va s'intéresser à deux éléments majeurs de la nature. L'eau et les arbres. Les deux sont indissociables. Partout à travers le monde, il y a des organisations, services eau et forêt. En Algérie, on a l'avantage d'avoir deux ministères différents, des agences très spécialisées, et justement, on va recevoir, on a le plaisir d'avoir dans nos studios Madame Nadia Houchard. Bonjour.
Bonjour monsieur, merci pour l'invitation et bonjour les auditeurs de la chaîne 3.
Vous revenez assez souvent ces derniers temps parce que Amkhir, il pleut, les barrages se remplissent, il va falloir faire des lâchers, donc il faut des mesures de sécurité. Je rappelle que vous représentez la NBT qui est l'Agence Nationale des Barrages et des Transferts. Oui. Les transferts, quand le barrage se remplit, dans certaines régions, on transfère les eaux en plus, le surplus d'un barrage à un autre. Et à vos côtés, Monsieur Adel Belot, vous, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs.
Et vous représentez, vous êtes chef de bureau à la DGF, la Direction Générale des Forêts. On aura aussi madame Safia Wicher qui représente quelque chose de nouveau, quelque chose qui est encouragé, une entreprise chargée de la sensibilisation et des actions vertes et mûres pour une Algérie verte. Alors, on va commencer avec vous, Madame Houchard. Amkhir, il a beaucoup plu ces derniers temps. Les barrages sont bien remplis. Certains à plus de sont arrivés à 100% et même, j'allais dire, plus, puisqu'on procède régulièrement ces derniers, cette semaine qui vient de s'écouler, à des lâchers. Quels sont les barrages qui sont remplis à 100%, Madame Houchard?
Merci. On va commencer par l'hamdoulilah, bien sûr. L'hamdoulilah. Il y a eu une amélioration significative du taux de remplissage des barrages ces dernières semaines, qui va permettre de combler le déficit accumulé durant ces dernières années de sécheresse et certainement soulager et sécuriser l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation. On enregistre aujourd'hui un taux de remplissage des barrages de plus de 48%
au niveau national. 48% taux de remplissage national.
Contre 35% en 2025 à la même date. On a enregistré 48% dans la région ouest. et plutôt 42% dans la région ouest, dans le bassin du Chilif 50,22, le centre 24,64 et les barrages
24,64.
Oui.
Le centre. Et
le centre, oui.
C'est le pourcentage le plus faible au niveau national.
Et au niveau national, mais il y a une bonne amélioration par rapport à l'année passée. Et aussi, pour les barrages de l'Est, on a enregistré aujourd'hui 61,33. C'est 48% national, ce qui équivaut 3,7 milliards de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire réservés dans les retenues, à l'origine de 7,6 de capacité totale d'emmagasinement d'eau, uniquement d'eau au niveau de nos barrages. Abstraction, on fait abstraction à l'envasement.
À l'envasement, très bien. Donc 3,7 milliards de mètres cubes d'eau, c'est le volume actuel emmagasiné dans nos barrages qui ont une capacité, les 81 barrages, vous me corrigez si je me trompe,
oui, c'est
de 7,6 milliards de mètres cubes.
Oui, en eau uniquement. Et aussi, aujourd'hui, on a 11 barrages qui déversent. 11, c'est les barrages, on va dire, Qsob dans la wilaya de Msila, les barrages de Boussiaba et d'Eragen et Kissir dans la wilaya de Djidjel, le barrage de Bni Haroun à Mila, les barrages de Bougouz et de Meksa dans la wilaya de Tarof, et le barrage de Benizid à Skikda. Aussi, on a le barrage Teht dans la wilaya de Mascara, le barrage Bakhada aussi à Tierret, et le barrage réservoir, enfin, c'est une prise, et en même temps, il joue un rôle de stockage, le barrage Chilif, qui est un ouvrage intégrant le système Mao dans la wilaya de Mostaganem.
On va revenir tout à l'heure au système Mao pour Mostaganem, Arz Oran. Le temps d'avoir au téléphone Safia Wicher. Bonjour, Madame Wicher.
Bonjour.
Alors, vous êtes en direct avec nous, vous êtes spécialisée et dans la permaculture et aussi dans la sensibilisation à l'acte de verdir notre grand pays continent. Une appréciation de cette année très pluvieuse, qu'on espère encore un peu plus pour avoir un taux de remplissage des barrages encore plus important. C'est bon pour l'agriculture, c'est bon pour la permaculture aussi?
Oui, alhamdoulilah. En tout cas, il y a une sérénité automatique qui s'installe quand on voit cette eau, on va dire, de pluviométrie, la neige, etc. Donc, alhamdoulilah. Je pense bien sûr qu'on a l'espoir que, bien sûr, le climat va un petit peu s'apaiser et aussi, bien sûr, une année fertile, une année très productive, inchallah. Voilà. Donc, nous, en tout cas, en tant que permaculteurs, on est très contents de voir ce taux de on va dire de pluviométrie. Voilà. J'ai pas entendu bien la deuxième question, Hamid.
Restez avec nous, restez avec nous jusqu'à 11h et donc vous allez avoir non seulement une deuxième, une troisième, une quatrième jusqu'à arriver à verdir toute l'Algérie. Alors, on reste pour le moment pour la partie barrage, pour pouvoir faire de la permaculture, pour pouvoir irriguer les plants. Il faut de l'eau. Donc, cette fois-ci, c'est bon, on est bien parti. Avec 48% au niveau national, on s'interroge. On fait tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Peut-être faute de notre part d'instaurer un dialogue avec les spécialistes. On fait notre mea culpa. Il faut qu'on explique ce qu'est un ouvrage type barrage, comment il est rempli. Quand il arrive à être plein, ou alhamdoulilah, à 100%, quelles sont les mesures de sécurité et du barrage et des différents canaux d'évacuation de l'eau? Ça se passe comment, Madame Houchard?
Oui, merci. Juste, je vais rajouter seulement les 48% enregistrés qu'on observe actuellement. C'est vrai, on espère toujours avoir plus. On arrivera, Inch'Allah, vers la fin de cette saison, peut-être
à 70%,
fin avril jusqu'à mai. On peut avoir toujours, avec la fonte des neiges, on peut avoir toujours des écoulements dans les bassins versants de barrage.
Mais Inch'Allah.
on va dire si 48%, c'est équilibré sur tout le territoire national. D'ailleurs, on a 50 barrages qui enregistrent un remplissage supérieur à 30%.
Alors, on retient cela, 50 barrages sur les 81 ont dépassé
les 50% de remplissage. Dans ces 50 barrages, on a 30% plutôt, on a 31 barrages qui dépassent 50%. 50%, c'est-à-dire, quand je vais dire 50%, il y en a ceux qui sont à 50, 70,
d'accord,
60.
Qui dépassent la barre des 50.
Jusqu'à les 11, 200%.
Très bien.
Bon, un barrage, vous disiez, qu'est-ce qu'on fait? Un barrage, quand il est plein, quelles sont les mesures prises par l'Agence nationale des barrages? Un barrage, il faut savoir qu'un barrage est un corps qui bloque un cours d'eau. Il est muni d'une digue, c'est la barrière, on va dire.
C'est un ouvrage en béton.
En béton, renforcé. En terre, ça dépend de la structure géologique du substratum et du sous-sol. Donc, il y a plusieurs types de barrages selon les conditions, bien sûr, géologiques et géotechniques du site de ce dernier. Un barrage, donc, c'est le corps du barrage, c'est le mur qu'on observe qui barre l'écoulement. Le barrage, il est équipé d'une vidange de fond pour évacuer, chasser les eaux. Cette vidange,
c'est une vidange de fond.
C'est des ouvertures et menées
au fond
de
du vannes,
au fond du barrage. Il y a certains barrages, on a un demi-fond. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et il y a un évacuateur de crue. L'évacuateur de crue, justement, il sert à évacuer le surplus de l'eau en cas de crue et de remplissage à 100% du barrage. On dit aujourd'hui le remplissage à 100%, c'est-à-dire on atteint le niveau de retenue normale du barrage. Le surplus, il est évacué par l'évacuateur.
Alors l'évacuateur, le surplus, il y a deux niveaux. Il y a le niveau eau qui arrive. C'est le barrage déborde. Il a fait le plein.
Il déborde par l'évacuateur de crue.
De crue. Il s'appelle. Qui est le côté supérieur de la digue.
Supérieur à la digue, c'est-à-dire supérieur au remplissage de 100%. L'évacuateur de crue, il est calé au niveau du remplissage à 100% du barrage.
Ça, c'est la partie haute et la partie basse du
barrage. La partie basse, c'est des ouvertures au fond de la
digue. Qu'on ouvre avec des vannes.
C'est des vannes, oui. D'accord. C'est des vannes motorisées, automatiques. Il y a différents types de vagues. On ne va pas s'étaler sur ça. Donc, quand le barrage est rempli, il y a une crue, le surplus de ce barrage, il est évacué automatiquement par l'évacuateur de crue. C'est son rôle primordial et principal. Et nous, il y a la vidange de fond, elle est utilisée pour contrôler les lâchers. C'est-à-dire quand on voit, premièrement pour contrôler les lâchers, parfois on les utilise pour l'irrigation, pour lâcher de l'eau
dans les canaux
dans les ouèdes pour rejoindre les périmètres d'irrigation. Elle est faite pour chasser de la vase aussi. Les premières années d'exploitation du barrage, on ouvre même actuellement, on est en train de chasser par le fond. On profite pour aussi chasser avec l'eau une quantité de vase. Pourquoi on opère une vidange de fond? Parce que la vidange de fond, on peut contrôler le débit qui sort à la verre.
À un diamètre,
on peut contrôler, c'est-à-dire il y a un débit dimensionné pour cette vidange. L'ouverture, on peut jouer sur l'ouverture de la vanne. On le fait pour anticiper et prévenir un remplissage important du barrage. Parce que quiconque un barrage plein... Même s'il n'est pas plein, il est par exemple à 95% de son remplissage, il y a un BMS ou des intempéries qui sont annoncées, on commence déjà à soulager le barrage pour contrôler les débits qui arrivent à l'aval pour éviter toute inondation à l'aval.
Donc, c'est une mesure proactive.
C'est une mesure proactive, c'est une mesure de prévention et de sécurisation, soit l'aval du barrage et le barrage lui-même.
Ça se passe comment ? quand vous avez un BMS qui arrive, beaucoup de précipitations, le barrage est déjà à 85-90%, il va falloir procéder à délâcher.
Ah oui.
Quand vous procédez à délâcher, c'est bon parce qu'on se débarrasse en quelque sorte de la vase. Comment les riverains sont avisés? Par quels moyens?
Non, quand avant toute déjà avant toute opération de d'ouverture de vannes, il y a des brigades qui sortent sur bien sûr avec la participation des autorités locales. Quand je dis les autorités locales, y compris notre direction, il y a des directions hydrauliques de Wilaya, elles sont avisées pour contrôler l'état de l'oued à l'aval du barrage, c'est-à-dire enlever tous les obstacles qui peuvent surélever le niveau d'eau dans l'oued. Parce que dans nos oueds, malheureusement, on y trouve de tout.
C'est des, parfois des dépotoirs et des décharges à oued ouvert.
À oued ouvert, oui, mais pas à ciel ouvert, mais ouais. À oued ouvert. Et puis avant toute opération d'ouverture de vannes, les autorités locales sont avisées. Il y a les chefs d'Aïra, on commence d'abord avec le directeur d'hydraulique de Wilaya qui travaille en étroite collaboration avec M. le Wali de la Wilaya concernée. Et on avise les services de la gendarmerie, de la protection civile, je disais l'APC, les APC les plus proches. Bien sûr, même notre direction, notre ministère, il est avisé pour la prise en charge de toute mesure adéquate.
Et en général, quelles sont les difficultés lors des différents lâchers? Parfois, ce sont des lâchers d'urgence pour d'abord préserver l'ouvrage. Et on doit alimenter les surfaces irriguées. Qu'est-ce qu'on trouve dans les ouettes d'abord?
Qu'est-ce qu'on trouve dans les ouettes?
Parfois
on
des
trouve,
constructions.
Des constructions, des déchets, des troncs d'arbres, des réfrigérateurs, des cuisinières, des pneus, des gravats de démolition d'habitation, on va dire même des gravats de réalisation de routes, de chemins, de
ça
tout.
Veut dire que c'est l'incivisme des citoyens qui jettent ces déchets dans le tour de l'oued et après. On risque d'avoir une élévation du niveau d'eau et un débordement vers les habitations qui sont construites sur des sites interdits.
Pas uniquement interdits, parce que parfois, on peut construire dans cette ouette-là. Quand il y a un nouveau obstacle à l'aval du barrage, on va dire que c'est un autre barrage qui est anarchique. Ce n'est pas un vrai barrage. Là, le niveau, il est comme...
Il
remonte le niveau comme il remonte dans la retenue du barrage. Donc forcément, il y a des inondations, tout ce qui se trouve sur les abords de l'ouette. Comme vous le savez, il y a le lit mineur, le lit majeur. C'est-à-dire, nous, on évite toute construction, même sur... construction dure, hein. On peut donner des autorisations à certaines constructions là où, par exemple, des trucs de réactivité. C'est-à-dire, on est là à un commerce, on est là dans la journée, on n'est pas là dans la nuit. Parce que tout le monde est averti quand il y a un BMS. Maintenant, alhamdoulilah, les réseaux sociaux en parlent, il y a les journaux, il y a la télévision.
La radio.
Même nous, la radio.
Et les radios locales, c'est très important.
Les radios locales. Aussi, nous, on avertit toutes les autorités locales concernées. Donc, on peut évacuer. On a peur plus la nuit. Les gens sont dans leur maison et ils dorment.
Très bien. Et donc, pour vous, un lâcher, que ce soit un lâcher ou un débordement, est une action qui est réfléchie, qui est maîtrisée.
Oui.
Les populations riveraines sont avisées. Il n'y a pas lieu d'avoir à s'inquiéter concernant les lâchers d'eau.
Les lâchers, c'est des consignes bien écrites dans des recueils d'exploitation. Ils sont rédigés par des experts et bien dictés à quel moment il faut ouvrir les vannes des vidanges de fond, à quel moment il faut, à quel débit il faut ouvrir la vanne, c'est-à-dire à quel débit, sur combien de périodes. Tout est écrit sur des registres de consignes d'exploitation. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter, on est toujours averti de ces lâchers-là. Il faut que le citoyen soit rassuré quand on fait une lâchée, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème au niveau de ce barrage.
Très bien.
Une lâchée, elle est faite pour une prévention, pour un dévasement, pour une irrigation, pour soulager, pour contrôler les déversements après. Parce que je préfère un aïa aujourd'hui. Il y a une crue qui va arriver avec un pic. Par exemple, il y a des crues qui arrivent avec des pics de 800, 400, 1000, 1200 mètres cubes. On peut avoir ça, des crues, on va dire fréquentielles, les fréquences de dimensionnement des barrages, ça va jusqu'à des fréquences de 1000 ans. Donc, on peut avoir, on n'est pas épargné de...
La crue du siècle, comme on l'appelle.
Oui, la crue. Donc, nous, on préfère contrôler des déversements à l'aval que cette quantité parviendra subitement. Parce qu'on ne peut pas contrôler un évacuateur de crue. Donc, je préfère ouvrir à l'avance les vannes pour soulager la retenue.
Et ça, on le fait là où il n'y a pas d'ouvrage de transfert, parce que dans beaucoup de barrages, et c'est une fierté sur laquelle, permettez-moi d'insister, c'est une fierté nationale, nous avons des barrages qui sont interconnectés,
oui,
et on peut faire passer des quantités importantes, des volumes d'eau, d'un barrage vers un autre barrage par des ouvrages de transfert.
Oui, oui. Là aussi, on revient sur ça. Il y a des barrages, par exemple, si on regarde Bnei Haroun. Bnei Haroun, on transfère pratiquement 1 million de mètres cubes par jour vers d'autres barrages.
1 million de mètres cubes. 1 million.
Oui.
Sur un barrage qui fait presque 1 milliard de mètres cubes.
Mais c'est ça, oui. on peut pas
édifier
des stations de, parce que oui, sa station déjà elle est immense. Si on va transférer 10 millions, où est-ce qu'on va les transférer aussi?
Par quel canal?
On doit comprendre qu'on peut pas édifier un barrage n'importe où. Un barrage, il répond à des conditions techniques, géomorphologiques, géologiques et topographiques. Donc, il faut pas dire, c'est-à-dire, il y a de l'eau, on doit réaliser un barrage. Et à quel coût aussi, on a réalisé des barrages très chers parce qu'on a dû traiter le sous-sol avec le prix du traitement du sous-sol, il est supérieur au prix de la réalisation de la digue elle-même. Donc, quand on peut, on le fait. Le barrage Bnei Haroun, malgré on est en train de transférer vers les barrages des hauts plateaux, il y a le barrage de Oued El Athmani à Mila, le barrage d'Ourkis à Mbouaké, le barrage de Kediat Mdouar à Betna, mais il déverse toujours parce que cette saison elle est
exceptionnelle.
Elle n'est pas bonne. Exceptionnelle, elle est normale par rapport.
Oui, elle est exceptionnelle par rapport à ces dernières années.
Par rapport à ces dernières
on s'est
années,
on a oublié. Une sécheresse chronique,
oui,
malheureusement.
Oui, à la durée malheureusement dans oui, le temps, mais il y a rien d'exceptionnel. Soyez sûr et certain.
Très bien. Alors, quand on peut, en transfert, c'est une fierté nationale ces ouvrages de transfert. Vous venez de parler de transfert. 1 million de mètres cubes du barrage de Bnei Haroun, le plus grand barrage au niveau national dans la wilaya de Mila, jusqu'à Batna.
Oui.
C'est quand même une prouesse qu'un barrage puisse desservir d'autres barrages et puisse desservir en même temps jusqu'à 6 wilayas.
6 wilayas, oui.
Ça a un coût, hein, le trésor public casse sa tirelire,
ah oui,
pour pouvoir alimenter
en eau potable.
Il continue
à casser sa tirelire parce que le prix de l'énergie est faramineux dans cette région-là. On n'a pas que la station de pompage Bnei Haroun. On transfère vers le barrage Oued El Athmani avec une station gigantesque. C'est la plus grande chez nous. Et puis, on a d'autres stations aussi importantes dans la wilaya du sud, la wilaya de Mila et au niveau de la wilaya de Mbouaké.
Ça consomme beaucoup d'énergie.
Oui, ça consomme beaucoup.
Et sur le barrage de Bnei Haroun, il y a un projet assez intéressant de couvrir une partie du barrage avec des panneaux photovoltaïques flottants pour...
Ça va aider la consommation électrique. Ça va, Inch'Allah, ça va aboutir. Les résultats, on aura de bons résultats parce que c'est un projet de recherche avec les universités, bien sûr avec une grande participation des cadres de la MBT sur place qui se trouve à Bnei Haroun.
Et Adel Belot, quand vous avez toute cette quantité la hiberte d'eau, ça vous donne de l'espoir pour planter un peu plus au niveau de la DGF qui est sur le niveau national?
Bien sûr, comme vous avez dit, alhamdoulilah, cette année la pluviométrie est très importante. Le souci de la plantation au niveau pour le secteur de l'administration des forêts, c'est l'entretien et l'irrigation, surtout le mois d'été. Donc nous on préfère de planter le mois de le mois de novembre, décembre, justement, durant la campagne de plantation. Et quand il y a plusieurs, plusieurs pluviométries, la pluviométrie est importante, le sol sera humide. Donc, c'est un facteur important pour les plantations, pour les racines des plants.
Très bien. Je ne sais pas si Safia ou Cher, non, il y a des petits soucis de communication. Et donc, la meilleure saison, la saison la plus favorable pour pouvoir planter, c'est quand le sol est humide, c'est pour permettre à l'arbuste, au plant, au bébé, à l'arbre bébé, de pouvoir planter ses racines et durer, c'est cela.
Voilà. Même la période de plantation commence chaque année, de mois d'octobre jusqu'à mois de mars, le 21 mars, qui coïncide à la journée mondiale des forêts.
De l'arbre. Alors, c'est la journée mondiale des forêts aussi, et justement, c'est les forêts, les arbres, c'est une activité de Safia, de Madame Safia Wicher. Alors, Madame Wicher. Alors, Ouchard, oui, cher, mais les deux, l'une est dans les barrages, l'autre est dans la permaculture, mais surtout la sensibilisation. On a assisté ces dernières années, depuis d'ailleurs l'indépendance, pour restituer une partie des superficies incendiées par le colonialisme français, l'Algérien implanté, participé de manière bénévole à la plantation d'arbres, mais il faut passer de la manière de l'aspect quantitatif à l'aspect qualitatif. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser à l'acte de planter, mais surtout de bien planter, de planter utile, Madame Wicher?
Très bien. Donc, justement, merci pour l'occasion de m'exprimer sur ça, parce que c'est un sujet quand même qui revient à chaque fois. Donc, on aime bien reboiser, c'est-à-dire régénérer, on va dire, des espaces, etc., verdir. Mais après, on a toujours la contrainte, surtout, de suivi et d'entretien. Je pense que M. Bellot vient aussi de l'évoquer. Donc, on sensibilise plus pour ça. D'ailleurs, on fait, des opérations avec des enfants, des familles, des écoles, mais aussi avec des opérateurs économiques. C'est-à-dire, on encourage des opérateurs économiques dans le cadre, RSE, responsabilité des sociétés, des entreprises, par rapport à leur impact environnemental, de faire, des opérations de reboisement utiles, mais aussi durables. Donc, quand on dit durable, ça veut dire qu'automatiquement, il y a un aspect de conception, de suivi et d'accompagnement pendant au moins 2 ans par rapport à ces espaces-là. Donc, pour nous, ce sujet, il est très, très important. Parce que sans ça, on ne peut pas dire qu'on fait des projets de reboisement durable. Donc, mis à part ça, nous, on a une approche particulière qui est, la permaculture. Donc, c'est une approche holistique et durable, donc qui associe les trois aspects, environnemental, donc l'impact du reboisement. Je pense que, on va passer de ne pas trop expliquer. Par contre, pour le côté social et économique, donc là, j'aimerais bien mettre le point dessus. Ça permet de faire des activités autour de ces espaces-là, même d'intégrer la société civile par rapport au suivi, à l'entretien, les rendre des endroits sociaux aussi, et reconnecter, les urbains ou autres, c'est-à-dire à leur nature. Et sur le plan économique, ça peut être aussi, si on plante des essences très diversifiées, on peut aller vers des essences rustiques en même temps productives.
On va vous retrouver, Madame Safia Wicher, j'imagine, samedi prochain, avec vos équipes un petit peu partout, à travers cette magnifique initiative de celle qui consiste à planter 5 millions d'arbres, et que va nous présenter Monsieur Adelbelot. Alors, 5 millions d'arbres, c'est un défi à relever. C'est quand même important que ce projet de 5 millions d'arbres.
Bien sûr, 5 millions d'arbres, c'est un défi national. Pour planter 5 millions d'arbres dans une seule journée, c'est la continuité de la campagne qui était commencée déjà au mois d'octobre. On a planté 1 400 000 en une seule journée, le 25 octobre, qui coïncidait avec la journée nationale de l'arbre. Voilà. Et après, on a planté aussi 9 millions d'arbres depuis le 25 octobre jusqu'à présent.
Et le 25 octobre, ce qui était prévu, c'était 1 million d'arbres. 1 million... Mais finalement, il y a eu, on a dépassé
l'objectif.
C'était 1 million 400 et quelques mille. Donc, on a dépassé de près de 40% le chiffre des millions d'arbres. C'est quand même plus qu'encourageant.
Voilà, puisqu'il y avait plusieurs participants, notamment les secteurs économiques et les secteurs privés, et même les secteurs de l'administration, les secteurs de l'administration, les citoyens et les associations. Donc, on a dépassé l'objectif, puisqu'il y avait trop de participation.
De participants. Et justement, Safia Wichert a envie d'avoir une petite précision. Madame Wichert.
Oui.
Vous êtes toujours avec nous. Vous voulez intervenir sur les différentes opérations?
Oui, bah après, nous, on aimerait bien sûr faire partie, etc., comme d'habitude. Après, pour le moment, on n'a pas vraiment des détails.
De sites précis.
Etc. J'espère que, voilà, on contactera pour avoir plus d'informations. Voilà.
Très bien. Alors, défi dépassé, ce défi-là est encore plus important puisqu'il s'agira de planter en une seule journée 5 millions d'arbres.
Bien sûr. La différence entre la première campagne et la deuxième campagne, c'est que la première campagne était au début de la campagne de plantation de chaque année. Donc, les plants étaient disponibles dans les pépinières, les conditions climatiques, toutes les conditions
étaient réunies.
Maintenant, pour planter 5 millions en une seule journée, le 14 février, donc on avait plusieurs inconvénients. Premièrement, le temps limité pour préparer les terrains, pour le choix des espèces et aussi pour la disponibilité des plants. Donc, pour arriver à 5 millions de plants, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche a sollicité les secteurs économiques et tous les opérateurs pour participer à cet événement à travers l'achat des plants et participer pour réussir cette opération.
Alors, ça s'opère comment ? On peut mobiliser l'Algérien implanté, mais est-ce qu'il y a une cartographie ? Quand vous êtes sollicité par une entreprise, ça pourrait être n'importe quelle entreprise publique, économique ou privée, ou des citoyens d'une association, ou d'une mosquée, ou d'une école, ils veulent planter dans une région donnée. Comment vous allez leur permettre de faire leur opération avec un maximum de chance ? Vous avez une cartographie du site, de la nature du sol, et il faut qu'il y ait, pas très loin, les plants nécessaires, donc des pépinières, pour pouvoir joindre, j'allais dire, l'utile à l'agréable, le bon plan sur le bon sol. Vous opérez comment dans ces cas ?
Le choix de terrain, c'est le plus important. Donc, pour planter, il faut plusieurs mesures. Le choix de terrain se fait par la conservation des forêts au niveau... local. Avec la coordination, les collectivités locales. Donc, le choix du terrain, c'est par rapport à la nature juridique du terrain. Donc, nous, on donne l'importance aux espaces forestiers. Donc, c'est notre mission principale, c'est la protection des forêts et l'extension du patrimoine forestier. Donc, on plante dans les forêts. Donc, le choix, la majorité des parcelles sont dans les forêts. Donc, nous avons une deuxième opération qui est la plantation fruitière et la distribution des plants au profit des bénéficiaires et des riverains qui vivent à proximité des forêts. L'accompagnement avec les collectivités locales pour l'extension des espaces verts et dans les établissements publics et scolaires. Donc, chaque conservation des forêts fait le constat, elle fait la liste des espaces à planter. Elle fait le choix des espèces qui s'adaptent pour chaque région. Donc, une coordination avec les collectivités locales, bien sûr, avec l'OLI. Après, chaque institution, bien entreprise économique, elle va
se rapprocher de la conservation des forêts.
Ça pour mieux coordonner pour réussir les plantations.
Très bien. Alors, Safia Wichert, vous privilégiez quoi pour la préservation des forêts ? Il y a toujours un ratio. un pourcentage. Les arbres, c'est bien, mais l'arboriculture permet aussi aux riverains de pouvoir se nourrir d'une action de plantation en plantant des arbres fruitiers. C'est toujours utile de joindre l'utile à l'agréable.
Tout à fait, exactement. Et moi, j'irai plus loin parce que, bon, nous, dans notre approche, c'est vraiment d'aller diversifier, créer carrément des forêts-jardins, par exemple, où on va...
C'est quoi une forêt-jardin, Madame Wicher?
Oui. Alors, c'est, on va dire que c'est carrément de l'agriculture, mais forestière. Voilà. Donc, on a trois composantes. On a des arbres, on a des arbustes et on a aussi tout ce qui est herbacé. Donc, on peut lier tout ce qui est plantes aromatiques, etc. Donc voilà, ça peut être non seulement des écosystèmes très résilients, donc qui résistent justement, par exemple pour ces pluies qui sont fortes par rapport à l'érosion, etc., et la déstructuration des sols, mais aussi l'effet, on va dire, économique, vous venez d'aborder, et en même temps de créer vraiment des écosystèmes très diversifiés, c'est-à-dire on attire la biodiversité animale, les insectes, etc., on enrichit le sol, rien qu'en choisissant des essences et en utilisant ce qu'on appelle des strates. Des strates, c'est-à-dire on a plusieurs niveaux de plantation, arbres, arbustes et les plantes herbacées. Voilà.
Très bien, vous rejoignez ce protocole de travail, M. Blot. C'est comme ça que ça devrait se passer, joindre l'utile à l'agréable, permettre aux riverains dans une région de pouvoir gagner leur pain en plantant des arbres, mais aussi des arbres fruitiers.
Bien sûr, c'est même... Même Monsieur le Président a insisté dans le programme de relance du barrage vert de planter des espèces à valeur économique pour impliquer les gens, les riverains, à profiter des espèces à valeur économique pour améliorer ses conditions de vie. Donc, la plantation fruitière se fait par la demande des bénéficiaires et des agriculteurs. Chaque région est selon les espèces choisies. Et aussi pour les intégrer dans la protection des forêts. Donc, ils bénéficient en même temps, ils contribuent à protéger les ressources forestières.
C'est normal. Un arboriculteur va planter. C'est le partenariat win-win, gagnant-gagnant. Parce qu'un arboriculteur qui va planter 1000 amandiers et 1000 cerisiers, il va devoir les surveiller, parce que c'est son gagne-pain, et en les surveillant, il gère, il exploite, il surveille le patrimoine forestier immédiat. Alors, l'une de vos dernières déclarations, c'est qu'il va y avoir 5 nouveaux barrages. C'est des barrages qui sont projetés. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà commencer à boiser les bassins versants pour pouvoir éviter un envasement précoce, et comment se fait la collaboration entre l'Agence nationale des barrages, qui a des barrages en projet, et la Direction générale des forêts? Vous travaillez ensemble ou c'est chacun pour soi?
Non, on travaille ensemble, bien sûr. Bon, là, au niveau du secteur de l'hydraulique, par bien sûr le biais de l'Agence nationale des barrages et transferts, on réalise pour chaque étude de barrage...
Étude
d'avant-projet de barrage, il y a une mission bien claire qui s'appelle étude de protection des barrages contre l'envasement. Donc ces études-là, on fait l'étude du bassin versant, la géomorphologie du bassin versant, le couvert végétal qui y est, et puis on propose des solutions pour limiter l'érosion, et, c'est-à-dire stopper et limiter, dans la mesure du possible, l'érosion.
Alors si je vous comprends bien, oui. Madame Nadia Houchard, vous représentez l'Agence nationale... C'est Safia Houchard et Nadia Houchard. Safia Houchard et Nadia Houchard, je me corrige. Alors, si je vous comprends bien, il y a, avant de lancer le projet de construction, de réalisation d'un barrage, il y a en amont une étude... du risque d'envasement.
Oui, c'est ça.
Si c'est quelque chose de récent?
Non, c'est des études qu'on a... Avant, on ne les faisait pas, mais la DGF, il n'y avait pas beaucoup de barrages. La DGF, c'était sa priorité toujours, et toujours, même actuellement, quand elle lance un plan d'action pour le reboisement, la priorité est donnée au bassin versant de barrage.
D'accord, mais s'il y a une étude d'envasement...
Oui.
De prévention de l'envasement, qu'est-ce qui explique l'envasement dans nos barrages?
Non, écoutez, Il y a, bon, les anciens barrages, il n'y avait pas ce genre d'études, quoique même les bassins versants, ils sont boisés, il y a certains qui sont boisés, bien sûr, il ne faut pas oublier les feux de forêt, la destruction de la forêt aussi, la sécheresse qui a détruit certaines maladies qui ont détruit les anciens arbres. Et puis, il ne faut pas oublier, les anciens barrages, ils sont construits dans des régions fortement érodables. Par exemple, Ouachilif, le terrain, il est érodable, l'érosion, elle est très importante.
On peut l'expliquer par toi, c'est la force de l'eau.
C'est la force de l'eau et c'est l'éthologie du sol aussi.
Qui grignote les berges de l'Ouachilif.
De l'Ouachilif, pas uniquement les berges, tout le bassin versant, c'est-à-dire les berges de l'Ouette le plus important, le cours le plus important, et ses affluents qui constituent tout le bassin versant. Donc, cette étude, elle est faite, comme je le disais, il y a des solutions, on définit le taux d'érodabilité du bassin versant, et il y a des solutions qui sont dégagées. C'est des solutions, soit là où on peut faire le reboisement, parce que c'est pas dans tous les bassins versants, on peut planter des arbres.
La nature du sol.
La nature du sol, la qualité du sol, comme il le disait, aussi. La topographie aussi. Donc, là, on peut faire des actions biologiques. On le fait, bien sûr, avec la participation. C'est la DGF qui le fait, qui va le faire, qui l'a fait, et il va le faire. Donc, comme je le disais, on travaillait en étroite collaboration avec la DGF. Toute l'étude, elle est transférée à la DGF pour la prise en charge des actions qui la concernent. Il y a d'autres actions qui concernent les autres secteurs, parce que là, il y a une participation multisectorielle. Pas uniquement le secteur de l'agriculture et des forêts ou le secteur de l'eau. Il y a le secteur des travaux publics, il y a le secteur de la bêta, parce que tout est lié, l'environnement.
La jeunesse et les sports, puisque on voit sur Bni Haroun, il y a même une base nautique.
L'exploitation de la retenue. Oui. Et aussi, il y a des actions de correction torrentielle.
C'est quoi une correction torrentielle, madame ?
C'est-à-dire corriger le cours d'eau, corriger sa pente, corriger ses rives.
Est-ce qu'on peut,
on peut le détourner, par exemple, le dévier.
Pour alimenter une nappe phréatique, ça se fait. C'est-à-dire...
Non, quand il y a un barrage, on préfère remplir le barrage. Bien sûr, il remplit toujours. Pourquoi les premières pluies, elles n'arrivent jamais au barrage? Parce que ça s'infiltre, elles remplissent le sous-sol. Ça reste toujours c'est un milieu intégré, donc ça reste toujours victoire, quoi.
Ce sont des actions biologiques par la plantation, soit fruitière, soit forestière, pour la fixation des sols et les terrains, surtout dans la partie nord, les terrains sont, la pente est très très forte, comme l'a dit madame, et les actions mécaniques par la correction torrentielle. Et pour soit corriger les torrents ou bien pour
casser la pente
pour diminuer les sédiments et la vitesse de pluie.
Surtout
là où il y a de la population.
Tu t'envoies sur l'historique en préparant cette émission, ça fait quelques années à peine, il y a un barrage, Zerdzès, dans la wilaya de Skikda, qui a été envasé à 100%. C'est parce que c'est un vieux barrage.
Il n'est pas à 100%, non.
Non, il a été, pas en ce moment. Il y a eu des opérations régulières
de dévasement. C'est un barrage très ancien aussi.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est parce qu'il n'y a pas eu de correction torrentielle ou parce que
c'est pas automatique. C'est pas automatique. La correction torrentielle, c'est pas pour tous les ouvrages.
Les ouvrages, oui.
Pas pour tous les cours d'eau algériens. Le barrage de Zerdzès, il n'est pas envasé dans sa totalité. C'est un barrage très ancien. Il a vécu. Donc, il y a des opérations de dévasement et d'aménagement aussi à l'amont.
Ça a un coût aussi, hein, j'imagine. C'est pour ça qu'il est préférable, en amont, d'agir, de boiser. Je reviens aussi à l'opération des 5 millions d'arbres.
Oui.
Quelle est la proportion d'arbres à planter dans les bassins versants pour éviter toute forme d'envasement, M. Blot?
Pour la plantation de 5 millions d'arbres, c'est une plantation de type volontariat avec les associations, les citoyens, et les secteurs publics.
D'accord.
Pour l'aménagement des bassins versants, comme l'a cité madame, on travaille en coordination. Il y a des études d'aménagement pour les bassins versants. Donc, il y a des actions, disons, prioritaires à intervenir. Donc, pour pour l'Agence nationale des barrages et transferts, ils ont leur propre action, les activités pour protéger le bassin. Le barrage, et nous avons nos actions pour protéger surtout les bassins versants en amont des barrages. Donc, parmi ces actions, c'est la plantation et on a dit les actions biologiques. Mais ce n'est pas par volontariat. Généralement, ce sont des programmes à la charge du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Ce sont des programmes qui demandent une enveloppe budgétaire et une entreprise de réalisation, puisque les terrains sont pentus, la pente est très importante. Donc,
il faut des spécialistes. C'est un travail de spécialiste, spécialité.
Spécialiste et aussi dans mode d'entretien, 2 ans, 3 ans pour réussir le projet. Mais cette opération de 5 millions, c'est une opération de plantation. Le choix des espaces se fait par des espaces qui ont des accès
simples pour les citoyens
et pour venir à entretenir.
Mais certains se trouvent dans les bassins versants de barrage de toutes les manières. On ne les a pas définis, mais elles s'y trouvent dans
Est-ce qu'on peut prendre un bassin versant pilote sur lequel l'Agence nationale des barrages et transferts et la DGF travaillent et qui est en train de commencer à donner ses fruits?
Je ne sais pas si on a déjà fait une évaluation pour l'instant. Il y a des barrages où ils ont commencé à travailler, par exemple le barrage de Tertre.
C'est-à-dire la DGF.
La DGF, oui. Bien sûr, il faut attendre un moment, comme il a déjà souligné, pour avoir une évaluation des résultats. Parce que même si les dernières années, même s'ils ont fait un grand effort pour le reboisement de certaines passes, les zones prioritaires, mais avec la sécheresse, le résultat, il n'est pas significatif.
Le service après-vente, j'allais dire, n'est pas automatiquement
n'est pas
assuré.
Automatique. C'est pour ça, même le reboisement dans certains sites, c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas automatique le reboisement dans bassins versants des barrages, parce que là où il y a la pluviométrie très réduite, c'est-à-dire on a un déséquilibre interannuel de la pluviométrie, même si on plante cette année, il n'y aura pas pendant 2 ans, 3 ans de la pluviométrie, on ne peut pas emmener des citernes partout sur des surfaces très importantes pour
même la nature ou les types de sol.
Les types de sol aussi, oui.
Ça se passe comment en général? Quand il y a, vous me corrigez si je me trompe, apparemment il y a 5 barrages qui sont projetés.
Oui, c'est-à-dire ils ne sont pas projetés, ils sont en cours de réalisation. Oui.
D'accord, en cours de réalisation.
Là, ceux-là déjà, ils ont leur propre étude de protection de bassin versant.
Donc pour éviter l'envasement.
Pour réduire, pas éviter.
Oui.
Pour réduire.
Diminuer
oui, parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres actions aussi au niveau du barrage pour réduire l'envasement.
Alors pour réduire l'envasement, il faut boiser. Le barrage a son enveloppe budgétaire. Est-ce que c'est dans cette même enveloppe budgétaire qu'il y a l'opération de boisement ou c'est un autre budget au niveau de la DGF, ministère de l'Agriculture?
Oui, parce que
c'est des budgets différents.
On va pas parler des budgets de l'État. Les budgets de l'État sont spécialisés. Chaque secteur il a sa mission bien précise. Donc on peut pas donner un reboisement au ministère de l'hydraulique parce qu'il y a un ministère qui est chargé
de
l'agriculture et des forêts. Mais il y a des actions de volontariat, comme il disait tout à l'heure, faites par l'Agence nationale des barrages et les autres secteurs aussi du ministère de l'hydraulique, l'implantation des arbres dans les pourtours, les alentours de la retenue. Vous avez déjà participé plusieurs fois avec nous. Le dernier, c'était en octobre, au niveau du barrage de l'Ira. On en a fait beaucoup. Je vais vous donner quelques chiffres. Allez-y. Sont pas importants, mais c'est important dans le cadre d'un volontariat. Depuis 2016 à aujourd'hui, on a planté un peu plus de 3 millions d'arbres au niveau des retenues des parages. C'est-à-dire on profite, on profite des terrains qui entourent la retenue, qui sont expropriés. Ils sont réservés justement quand il y a une surveillance. Parce que quand on a, par exemple, un barrage plein, c'est vrai, on est en train de lâcher, mais le niveau, il est élevé par rapport au niveau normal du barrage. Donc les eaux, elles inondent certains terrains. Là, on plante, parce que ce n'est pas tous les jours
qu'ils sont... Le terrain devient fertile pour une plantation.
Pas uniquement, parce que ces terrains-là, ils ne sont pas inondés. Chaque fois, chaque année, chaque fois, chaque mois. Donc, on a planté depuis l'objectif pour cette année d'arriver à 240 000 arbres au niveau de nos barrages. On a réalisé un peu plus de 69 000 depuis octobre à aujourd'hui. Donc, il y a toujours des actions. Là, c'est vrai, on ne va pas participer à freiner l'érosion au niveau des bassins versants, mais quand même, on va au moins fixer les terres aux abords des retenues, éviter les glissements de terrain aux abords de la retenue des barrages.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut penser sur un projet dans le futur où l'Agence nationale des barrages et des transferts a un projet à gérer, donc elle a un budget pour pouvoir réaliser un barrage. Dans ce budget-là, il y a une étude sur le risque d'envasement, donc il y a une étude. Est-ce que cette étude pourrait aussi englober une étude de boisement des bassins versants et transférer à la DGR pour qu'elle puisse dégager un budget équivalent pour, en même temps que les travaux de réalisation du barrage, il y a les travaux de boisement par des entreprises spécialisées des bassins versants.
Oui, c'est ce qui se fait dans ces études-là.
Études, mais sur le terrain, est-ce
que... Sur le terrain, tout dépend aussi de la disponibilité financière après. Hein.
On a la disponibilité financière pour construire un barrage. Pour éviter qu'il soit envasé, il faudrait qu'il y ait la même disponibilité financière au niveau de la DGF pour pouvoir boiser.
Oui, c'est faisable.
C'est faisable.
Même nous, à la Direction générale des forêts, nous avons, comme on a cité... trois types. Nous avons les volontariats, les programmes de protection, d'aménagement des bassins versants, mais aussi il y a des projets qui bénéficient des financements avec des agences ou bien des agences étrangères. Donc, pour la gestion des bassins versants, en coordination avec, par exemple, nous avons un projet à Kafeddir, pour la gestion intégrée
du bassin versant.
Les trois wilayas, Tipaza, Ndefla et Chlef, et ça pour gestion intégrée du bassin versant en collaboration avec l'Agence nationale des barrages et des transferts. C'est pas que les plantations, les reboisements, même renforcement de capacité des cadres au niveau local, soit les cadres de la MBT, de la Direction générale des forêts, du service agricole, tous les acteurs concernés.
Et parmi les acteurs concernés, si vous permettez, parce qu'on va vous donner une minute chacun, Safia Wicher, justement, parmi tous les acteurs, vous avez une place, vous frayez une place, vous êtes optimiste pour ces futures opérations, notamment votre spécialité, la sensibilisation.
Oui, tout à fait. Ben, on va dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, en tout cas. Voilà, mais c'est clair que voilà, nous, on s'est donné cette mission de sensibiliser et je pense qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Et donc, c'est clair que, voilà, on espère avoir une place parmi ces opérations et de pouvoir avoir aussi un rôle en amont, c'est-à-dire au moment de la conception, au moment de la réflexion et de l'étude, pour un petit peu mettre des constructions durables, c'est-à-dire choisir dès le départ les essences, voilà, aménager localement, c'est-à-dire selon, on va dire, la prédisposition, la compatibilité par rapport à ce qui est rustique, ce qui est endémique, etc. Parce que pour moi, le choix des essences, il est très très important. Et bien sûr, l'état du sol. Et peut-être il y a des opérations de renforcement à faire avant même de faire les plantations. Parce que si on est sur un sol fragilisé, les plantations vont être un petit peu, on va faire des efforts un peu pour rien. On a aussi la gestion pastorale dont on parle pas beaucoup. C'est qu'il faut une gestion pastorale, il faut la prévoir. Il faut la planifier par rapport aux endroits où on fait le boisement. Parce que sinon aussi, il y a beaucoup de pertes à cause du pâturage. Voilà.
Donc, très bien. Merci Safia. Je rappelle que vous représentez l'entreprise permatite spécialisée qui fait un excellent travail de sensibilisation, notamment avec le mouvement associatif et les écoles. Alors, pour terminer, Adel Belot, optimiste pour cette opération du 14 février?
Bien sûr, moi j'ai une observation, remarque pour la journée du 14 février par rapport aux conditions climatiques. Il peut y avoir des pluies, donc pour les participants, il faut
s'équiper
des vêtements appropriés pour surtout les élèves et les enfants.
La pluie est bienfaitrice. La pluie devrait nous encourager à planter. Ça veut dire que l'arbre va survivre. Alors, la pluie, elle est bienfaitrice aussi pour les barrages. Optimiste pour, les barrages, pour la saison hydrique
très
cette
optimiste.
Année.
Il y aura une sécurité en approvisionnement, Inch'Allah. Il y aura plus avec les prochaines pluies et de la neige aussi, la fonte des neiges. Et il faut dire aussi, il ne faut pas s'inquiéter quand il y a une lâchée au niveau d'un barrage. Ça ne veut pas dire un risque imminent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, c'est une protection et une prévention contre toute...
C'est pour protéger les barrages.
Pour et protéger, il faut... non, pas uniquement les barrages et la population, parce qu'il faut lâcher continuellement, c'est-à-dire progressivement et avec un contrôle bien efficace au lieu de leur lisser de l'eau.
Et Madame Richard, il faut dire, il faut écouter les stations radio locales pour être à l'écoute des lâchés. Je vous remercie, on se retrouvera mercredi prochain, même heure, même station. Merci.